J'aimerais parler sur la guérison divine dont nous avons commencé à voir ce sujet. Dans Luc chapitre 9, au verset 1er, il est dit « Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » Amen. Amen. En parlant de la guérison divine, nous avons parlé déjà de la maladie, le problème de la maladie qui existe, bien sûr, et les solutions que les médecins ont pu trouver, puisque Dieu a donné l'intelligence, mais aussi il a donné au corps humain le système immunitaire qui permet aussi un potentiel de guérison, mais aussi, bien sûr, l'œuvre de la croix qui permet la guérison surnaturelle, la guérison divine. Et tout cela se conjugue parce que tout vient de Dieu et tout est grâce. Jésus a aussi exercé lui-même un puissant ministère de guérison. Mais Jésus est retourné au ciel, alors qu'en est-il aujourd'hui? Alors j'aimerais voir avec vous ce matin que Jésus, en fait, continue son œuvre de guérison au travers son Église, au travers les croyants qui prient et qui s'attendent à l'œuvre de Dieu. Ici, dans le texte que nous avons lu, dans Luc chapitre 9, il est dit que Jésus, non seulement lui, il faisait guérison, mais qu'à un moment donné, il a assemblé les douze pour les envoyer prier à leur tour pour les malades et qu'ils puissent s'attendre à des guérisons. Donc, il prêchait l'Évangile et il s'attendait à des guérisons pour les malades. Alors, on voit chez Jésus comment est-ce qu'il a opéré auprès des disciples. Il les a formés. Il a d'abord donc lui-même prié pour les malades, c'est le premier qu'il a fait. Dès qu'il a commencé à prêcher l'Évangile, dans le début des Évangiles, on voit qu'il priait pour les malades et il y avait des guérisons. Et progressivement, il a fait participer les disciples à cette œuvre. Et puis ensuite, il les a envoyés, donc ici dans Luc 9, il les a envoyés tout seuls. Jésus n'était plus avec eux, il les a envoyés pour faire l'œuvre de Dieu. Et puis, quand ils reviennent, ils devaient rendre des comptes sur la manière dont les choses s'étaient déroulées. Alors on voit que Jésus a voulu former ses disciples pour que la guérison que lui-même opérait, il puisse continuer à le faire. Il est en train de préparer, en fait, pour l'Église. Jésus a préparé les disciples. Un peu plus tard, dans Jean chapitre 14 et au verset 12, Jésus a prophétisé que son œuvre allait continuer, même après son départ. Il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Il est en train donc d'expliquer qu'il va partir dans le ciel, qu'il va retrouver Dieu dans la gloire céleste, mais en même temps que son œuvre ne va pas diminuer ou s'éteindre ou disparaître, mais qu'elle va encore s'étendre, même encore davantage que ce qu'il a fait lui-même sur la terre. Et quand on voit tout ce que Jésus a fait, on dit, mais comment est-ce possible de faire encore davantage, de faire encore de plus grandes choses que Jésus n'a accomplies? Pourquoi? Si vous regardez comment Jésus a agi, où est-ce que Jésus a opéré la plupart de ses guérisons? Eh bien, c'était très localisé dans le territoire d'Israël. Il est un petit peu allé sur les pourtours, mais en réalité, l'essentiel de son ministère, comme il le disait, « Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». On peut dire que l'essentiel du ministère de Jésus s'est tourné vers les Juifs qui habitaient dans le territoire d'Israël. Mais, à un moment donné, il a expliqué « Il vous est avantageux que je m'en aille », il a dit aux disciples, « parce que je vous enverrai le Consolateur ». Et à partir du moment où acte 2, la Pentecôte, donc le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Acte 2 a été le fondement de l'Église, les environ 120 qui étaient là dans la chambre haute, qui ont persévéré. Ils se sont rassemblés pendant 10 jours en attendant ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à aller prêcher la parole de Dieu et ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. On voit donc que s'est accomplie cette promesse que l'Évangile serait pour la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus a continué à agir au travers de ses disciples. En réalité, c'est allé beaucoup plus loin que le territoire d'Israël, c'est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il fallait que Jésus monte et qu'il envoie le Saint-Esprit. Je vous donne un exemple récent dans l'histoire. C'est pour montrer que nous ferons aujourd'hui des plus grandes choses parce que Jésus est parti au Père et parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Vous avez certainement entendu parler de cet homme qui s'appelle Reinhard Bonnke, qui est évangéliste et qui s'est converti à l'âge de 9 ans. Et dès sa conversion, peu de temps après, lorsqu'il a donné son cœur au Seigneur, le Seigneur l'a appelé à une œuvre missionnaire. Alors évidemment, il n'est pas parti tout de suite, il y avait tout un temps de préparation, de formation, c'est que bien plus tard qu'il est parti. Mais dès l'âge de 9-10 ans, il a senti dans son cœur brûler pour la mission, pour prêcher l'Évangile aux extrémités de la terre. Et il a fait une expérience dans l'église où son père était pasteur, qu'à un moment donné, il y avait une personne qui était gravement malade devant lui. Et à un moment donné, il ressent dans son cœur, il n'avait peut-être que 10 ans, il ressent dans son cœur de prier pour cette personne pour qu'elle soit guérie. Mais ça n'était qu'un enfant. Et il ne savait pas si un enfant avait le droit de faire cela. Et il ressent vraiment du Seigneur de prier pour cette personne pour sa guérison. Alors, tout doucement, il pose sa main sur la personne et il fait une petite prière d'enfant. On pourrait dire c'est une prière presque insignifiante aux yeux des adultes. C'est une prière d'enfant, avec son cœur d'enfant. Eh bien, après sa prière, la personne a été guérie de sa maladie. Une simple prière d'enfant, la foi, l'œuvre de Dieu s'est faite, tout simplement. Lui-même a été surpris de voir le résultat et ça a confirmé, en fait, l'appel qui était là sur son cœur et qui petit à petit a grandi et c'est bien plus tard finalement qu'il est parti être missionnaire pour Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Et on est dans les années 1970 et il avait réussi à obtenir une immense tente de 800 places pour faire des campagnes d'évangélisation en Afrique parce que son appel c'était vraiment la vision, c'était l'Afrique. Et pour lui c'était déjà énorme, 800 places. Mais rapidement, la tente était pleine et il fallait une plus grande tente. Et quelques années plus tard, ils ont acheté une tente de 10 000 places. C'était énorme. 10 000 personnes qui venaient assister à des campagnes d'évangélisation, des conversions, des guérisons. C'était énorme. Et quelques années plus tard, dans les années 85, la tente étant trop petite, ils ont fait construire une tente de 34 000 places. C'est la tente qui est dans le Guinness des records de la plus grande tente qui a jamais été construite. 34 000 places pour écouter l'Évangile. Extraordinaire. Comment c'est parti petit, ça a continué à grandir. Mais encore une fois, au bout de quelques années, la tente était trop petite. 34 000 places pour toutes les personnes qui venaient écouter l'Évangile. Dans les années 90, il y avait plus de 500 000 personnes qui venaient. Donc il n'y avait plus de tente. Ça se faisait en plein air, dans des grands terrains vagues. Puisque personne ne peut contenir aucune structure ne peut contenir autant de personnes. Et jusque dans les années 2000, où ça a encore grandi jusqu'à 1,6 million de personnes qui venaient au rassemblement. Alors vous voyez la progression, et quand Jésus dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Parce que le Saint-Esprit permet en fait la démultiplication, la croissance. Et dans une seule soirée, il témoignait, dans les années 2000, qu'il y avait 1 million de personnes qui avaient pris une décision pour Jésus. Alors vous voyez que cette démultiplication, ça ne peut être que le produit du Saint-Esprit qui a été répandu et qui se fait comme Jésus l'a dit, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Alors dès le début de l'Église, il y avait cette attente du miracle, cette attente des guérisons. Par exemple, on a dit que l'Église s'est fondée dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, quand les 120 disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Avant, c'était des croyants qui se réunissaient, mais l'Église n'était pas encore vraiment fondée. Et maintenant, l'Église va prendre corps. Et le chapitre suivant, c'est Acte 3, quand Pierre et Jean montent au temple pour prier. Et dans ce texte, ils disent qu'ils voient un paralytique qui est assis à l'entrée de la porte, et qui lui demande de l'argent pour être soutenu. Et à ce moment-là, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et au nom de Jésus, cet homme a été guéris par la grâce de Dieu. Et donc, les apôtres s'attendaient à voir des guérisons et s'attendaient à guérir. Et les gens commençaient à venir vers Pierre en croyant que c'était un guérisseur, mais pas du tout. C'est au verset 12, acte 3, 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?» Donc les gens, après, regardaient Pierre d'un autre œil et ils disaient, « C'est un guérisseur, c'est quelqu'un qui a ce pouvoir ou ce magnétisme de guérir. » Non, Paul dit, ce n'est pas par, Pierre dit, « Ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre capacité, mais il dit, c'est par le nom de Jésus, c'est au verset 16, c'est par la foi au nom de Jésus que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. » Voilà comment Pierre explique le miracle. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas simplement le résultat d'une prière, mais c'est la foi dans celui qui peut faire le miracle, c'est la foi en Jésus. Et Pierre fait bien attention de mettre Jésus en avant pour que les gens mettent leur confiance en Jésus. Nous ne sommes que des instruments. Pierre était un instrument de Dieu, certainement. Il a été utilisé par Dieu d'une manière puissante, mais Pierre n'était qu'un homme faillible et qu'il n'avait aucun pouvoir en lui-même. Il a simplement la foi pour croire que Dieu va agir. Un peu plus tard, si on va dans Actes chapitre 9, donc on continue, l'histoire de l'Église continue, ils s'attendent toujours à des guérisons. Acte 9, il y avait un homme paralytique au verset 34 qui s'appelait Aîné. La Bible dit qu'il était paralytique depuis 38 ans. Et au verset 34, Pierre lui dit « Aîné ». Et cette prière dit « Jésus-Christ te guérit ». Alors, il veut vraiment mettre l'accent sur le fait que c'est Jésus qui est capable de guérir toute maladie, toute infirmité. « Lève-toi, arrange ton lit ». Et aussitôt, l'homme se leva et il fut guéri par la puissance de Dieu. Et Pierre veut vraiment se détacher de cette croyance qu'avaient les gens, qu'il fallait venir à telle ou telle personne, mais il dit « c'est Jésus-Christ qui te guérit maintenant ». En fait, le but de Pierre, c'est d'élever, d'honorer le nom de Jésus pour que les gens viennent à Christ et se donnent à lui et croient en lui pour la guérison. Alors, c'est ce que nous voulons faire aussi aujourd'hui. Si nous venons pour prier pour la guérison, eh bien, nous venons à Jésus, nous nous attendons à lui, nous croyons que le Seigneur Jésus est le même, parce que certains disent, oui, mais c'est vrai ce qui s'est passé dans la Bible, mais c'était il y a 2000 ans, et aujourd'hui, Jésus n'agit plus de la même manière. Or, si nous croyons que Jésus est toujours le même, comme la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, pourquoi aurait-il une action puissante dans les premiers siècles et aujourd'hui, eh bien, il n'agirait plus de la même manière. Nous devons croire et nous nous attendons à ce Jésus qui a changé l'eau en vin, qui a marché sur l'eau, qui a guéri les malades. Eh bien, c'est le même Seigneur, c'est le même Sauveur et que Jésus n'a pas changé, qu'il n'est pas plus limité aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Dans un deuxième point, je voulais parler des divers moyens de guérison. Le premier moyen qui est mentionné dans l'Écriture, c'est l'imposition des mains. Peut-être vous l'aviez remarqué en lisant les Évangiles que Jésus, souvent, quand il priait pour un malade, il lui pose les mains sur lui et il s'attend à Dieu pour sa guérison. Luc chapitre 4, verset 40, par exemple, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Donc Jésus lui-même imposait les mains aux malades en priant pour la guérison. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que Jésus faisait, il enseignait aux disciples de faire la même chose. Alors Marc chapitre 16, verset 16, il demande aux croyants, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il y a toute une série de signes. Et le dernier dit, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ça, c'est acte 16, 18. C'est quand Jésus donne les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, je remarque ici que Jésus nous demande aussi à nous d'imposer les mains aux malades et nous attendre à la guérison. Ce verset est un petit peu polémique pour certains parce que ce n'est pas le verbe « guérir » qui est utilisé ici dans l'original, mais c'est le verbe, c'est un mot qui signifie « bien ». C'est le grec « kalos » qui signifie « bien », « à merveille » ou « excellent ». Et vu que ce n'est pas le verbe « guérir », certains ont pensé que ce texte voulait dire, mais peut-être que ça veut dire que les malades iront mieux. Ils iront mieux, mais il n'est pas question de guérison ici. Or, ce n'est pas le cas. En réalité, la totalité des traductions conserve la notion de guérison. Pourquoi ? Parce que le mot grec utilisé, donc, je crois que c'est la version Darby qui traduit le plus littéralement. La version Darby dit « Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci se porteront bien. » Et se porter bien, ou on peut traduire « être en excellente santé » ou « se porter à merveille », c'est exactement le sens du mot grec, ça veut dire être guéri. C'est pourquoi la notion de guérison est tout à fait présente dans Marc 16, 18. Ils imposeront les malades, les mains aux malades, et les malades, alors on pourrait dire seront en excellente santé, si vous voulez, ils se porteront à merveille, ils se porteront bien, ou ils seront guéris, parce que tout cela, c'est la même notion qui est couverte. L'imposition des mains, bien sûr, n'est pas une superstition. Nous ne le faisons pas en croyant qu'un certain pouvoir ou un fluide passe par les mains, puisque ça c'est dans le monde occulte, mais nous croyons que c'est Christ qui agit dans la foi et nous nous attendons à lui. Nous le faisons parce que Jésus nous a demandé de le faire et surtout d'y associer la foi. Ce n'est pas le geste, mais c'est la foi qui est associée à la prière de guérison. Bien sûr, l'imposition des mains n'est pas limitée qu'à la guérison. On voit que Jésus imposait les mains, par exemple, pour bénir les enfants. Quand il a été question de prier pour les enfants, Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Il leur a imposé les mains et il les a bénis. Donc nous pouvons aussi imposer les mains pour bénir les autres. Pour, par exemple, introduire des personnes dans un service. Lorsque l'évangile croissant, dans Actes 6, il a fallu trouver des personnes pour distribuer la nourriture aux tables. Et à ce moment-là, les apôtres étaient pris par le ministère de la parole et la prière, et ils ont demandé à l'Église de choisir des diacres, des serviteurs, des servantes qui pouvaient se rendre disponibles pour ces activités, ce service. Et la Bible dit que quand ils ont été présentés aux apôtres, les apôtres leur ont imposé les mains pour les introduire dans cette charge, cette responsabilité qu'ils allaient prendre. Donc l'imposition des mains était pour ce domaine-là, le service. De même, quand l'Évangile continuait à croître et qu'il est allé jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien les premiers missionnaires se sont levés. Il y a eu Paul, il y a eu Barnabas. La Bible dit qu'ils leur ont imposé les mains avant qu'ils partent dans les champs missionnaires. On trouve l'imposition des mains aussi dans Actes 8 pour le baptême du Saint-Esprit. Lorsque Pierre et Jean vont dans la ville de Samarie où l'Évangile avait été prêché, eh bien, ils n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils ont imposé les mains et ils s'attendaient à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit. De même, Paul, qui a prié pour 12 disciples qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit et il leur a imposé les mains. Donc l'imposition des mains, c'est plus large que la guérison. Mais néanmoins, nous imposons les mains aux malades en priant pour eux, en croyant que Dieu va faire son œuvre. Mais ça, c'est dans la foi. Nous prions le Seigneur. Deuxième élément qu'on peut mentionner, c'est l'onction d'huile. L'onction d'huile existait déjà dans l'Ancien Testament. Elle était utilisée, par exemple, pour des soins thérapeutiques, pour soigner des plaies ou pour anesthésier des douleurs. Je lis Ésaïe chapitre 1, verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et dans le Nouveau Testament, Jésus prend cette histoire du Samaritain. Et vous savez, cet homme qui est blessé, il va être soigné. Et au verset 34, il dit, le Samaritain donc s'approcha et banda les plaies de celui qui était blessé en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à l'hôtellerie. Donc s'il a versé de l'huile et du vin, c'est que l'huile était utilisée comme une sorte de médicament pour soigner les blessures. Ça, c'est le propre de l'huile sur le plan physique. Maintenant, il y avait un plan spirituel, c'est-à-dire que l'huile servait à oindre pour un service. Par exemple, David a été oint d'huile pour entrer dans le ministère de roi. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a que deux versets qui sont relatifs à l'onction d'huile. C'est le premier qui est mentionné pour les disciples. Donc, les disciples oignaient d'huile les malades, c'est dans Marc chapitre 6 et au verset 13. Les disciples utilisaient l'huile pour prier pour les malades, toujours Jésus qui les envoyait. Et la Bible dit qu'ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc, il y avait l'imposition des mains. Et d'un autre côté, ils utilisaient aussi l'onction d'huile pour guérir les malades. C'est vrai qu'on n'a pas d'exemple où Jésus a oint d'huile un malade. Mais néanmoins, s'il a envoyé les disciples le faire, on peut croire qu'il le pratiquait et qu'il enseignait aux disciples de le faire aussi. Par contre, dans ce verset, c'est mentionné que beaucoup de malades ont reçu l'onction d'huile. Donc, c'est quelque chose que l'on peut utiliser encore aujourd'hui. Et le deuxième verset, c'est celui de Jacques, chapitre 5, verset 14, lorsqu'il est question des anciens. Si quelqu'un est malade, il dit qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Alors on voit que l'onction d'huile est recommandée dans l'Église maintenant concernant des malades qui demandent aux anciens, suite à une réflexion, à une prière, une conviction, qu'ils demandent l'onction d'huile. Soit au pasteur, aux anciens, et ensuite on le fait. Alors l'huile ici est bien sûr symbolique parce que Jacques y ajoute la prière de la foi. Bien sûr, il y a l'huile qui représente l'action du Saint-Esprit, mais l'huile n'a pas de pouvoir en elle-même. Par contre, la prière de la foi, il dit, sauvera le malade. Donc nous devons prier dans la foi, nous attendre à Dieu et croire que le Seigneur est puissant pour guérir. Remarquez que dans le contexte, Jacques rajoute que les péchés non confessés peuvent être un obstacle à la guérison. Il y a aussi des obstacles qui peuvent surgir. Il dit « confessez vos péchés les uns aux autres ». C'est quelque chose qui doit être fait, c'est la part du chrétien de demander pardon à Dieu, de se repentir, de sonder son âme. Et c'est pourquoi c'est associé ici dans le contexte aux anciens. Qui peuvent aider une personne à demander pardon pour telle ou telle situation. Et ensuite, il dit « priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ». Mais cette confession des péchés est importante pour Jacques puisqu'il dit « faites-le avant de prier ». Faites-le comme un signe que vous voulez demander pardon pour être libéré des poids des péchés, de certaines choses qui retient captif. Alors, un troisième élément que l'on voit pour les guérisons, c'est Jésus, par exemple, qui donne une parole d'autorité. Il y a l'imposition des mains, il y a l'onction d'huile, et quelquefois, Jésus parle aux malades pour qu'ils soient guéris. Déjà, la parole est puissante dans l'Ancien Testament, au psaume 107 et au verset 20, il est dit que Dieu envoie sa parole et il les guérit, il les fait échapper à la fosse. Déjà, la parole est puissante pour avoir une action de guérison. Et la parole dont il est question dans ce texte, bien sûr, nous savons, il y a la parole de Dieu, et la parole faite chair, c'est Jésus. Et Dieu a envoyé sa parole faite chair, c'est-à-dire Christ, pour guérir. Donc la parole incarnée, c'est Jésus, il a guéri les malades. Le centenier romain, par exemple, vient voir Jésus un jour pour son serviteur mourant, et lui dit, viens, il lui demande... il le supplie pour venir guérir son serviteur malade. Et Jésus lui répond simplement « J'irai et je le guérirai ». Et à ce moment-là, le centenier a une parole de foi. Il dit au Seigneur, c'est Matthieu 8:8, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Ça, c'est une parole de foi. Il a saisi que Jésus, c'est la parole, que un mot de lui peut produire la guérison. Alors Jésus n'a pas imposé les mains, il n'a pas versé d'huile, mais il a dit seulement un mot pour opérer cette guérison. Et effectivement, Jésus a honoré la foi de cet homme, puisqu'il parle dans la foi, il dit « Je n'ai jamais vu en Israël une aussi grande foi ». C'est quelqu'un qui croit que la parole est toute puissante. Donc pour nous, c'est un modèle aussi. Quelquefois, par exemple, Jésus va s'adresser à la maladie pour la chasser. C'est le cas pour la belle-mère de Pierre. On sait qu'elle avait la fièvre, qu'elle était couchée, elle ne pouvait pas se lever. Et Jésus est venu la visiter, s'étant penché sur elle, il est dit dans Luc 4, 39, il a menacé la fièvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'est adressé à la fièvre en lui ordonnant de partir. C'est exactement le même verbe que l'on retrouve quand Jésus a menacé un esprit impur, par exemple. Il a menacé la fièvre et la fièvre a quitté la belle-mère. Et quelquefois, Jésus va donner une parole de menace, d'autorité, pour chasser la maladie, un petit peu comme quelquefois il chassait un mauvais esprit. Sachant que les choses sont bien distinguées, que la maladie c'est une maladie, le mauvais esprit c'est un mauvais esprit, mais dans certains cas, eh bien, il va menacer la fièvre en lui parlant. Un autre élément que l'on trouve mentionné dans l'épître de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Corinthiens, ce sont les dons spirituels. Il y a 9 dons spirituels qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12, dont le don des guérisons. Et ce don des guérisons est donné à l'Église. Et il dit, à l'un, il donne une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, et puis à un autre, le don des guérisons. Qu'est-ce que c'est le don des guérisons? Eh bien, c'est ponctuel dans une situation. Dieu, c'est comme un don spirituel qui est nécessaire pour une personne qui est malade, et à ce moment-là, par un don de guérison, la personne obtient la guérison. C'est un don spirituel. Les dons spirituels ne sont pas permanents, ils sont accordés par Dieu au moment où nous devons les expérimenter. C'est très différent du fruit de l'esprit qui, lui, est permanent, le fruit de l'esprit qui doit grandir, qui doit croître dans notre cœur, dans notre âme. Et puis, un cinquième aspect que j'aimerais mentionner, qui est peut-être moins connu, c'est que par nos paroles, nous pouvons procurer des guérisons. Par exemple, dans Proverbes 12-18, des paroles inspirées vont apporter la guérison. « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Alors, la langue des sages, ce sont ceux qui aiment le Seigneur, qui sont en communion avec Dieu, qui ne parlent pas à tort et à travers, mais qui laissent leurs paroles être dirigé par Dieu. Et cette parole-là, eh bien, elle peut apporter la guérison. Et pouvons prier le Seigneur pour que Dieu nous utilise dans nos paroles afin de ne pas parler à la légère, de ne pas parler à tort et à travers, mais d'apporter aussi par notre bouche la guérison. Il est possible que notre langue soit en bénédiction pour des personnes malades. Eh bien, cela peut produire un miracle. Il y a quelques années de cela, un homme qui s'appelait Derek Prince, c'était dans la Deuxième Guerre mondiale, il était assistant du médecin qui allait de malade en malade. Il y avait une épidémie de dysenterie dans le camp. Et la première question du médecin, c'était comment vous sentez-vous? Et après avoir entendu la réponse, invariablement, il demandait au malade, montrez-moi votre langue. Et il auscultait la langue. Et en réalité, il établissait son diagnostic sur le malade, non pas sur la manière dont le malade répondait à la question « Comment vous sentez-vous ?», mais sur la manière dont le médecin observait sa langue. Et sa langue était révélatrice, finalement, de la maladie qui était dans son corps. Alors, lui n'en avait peut-être pas conscience. Lui pouvait dire « Je me sens bien », mais en réalité, sa langue démontrait qu'il était profondément atteint. Et le Seigneur agit de même pour nous. Il peut nous demander comment nous sentons-nous, nous pouvons dire bien, mais s'il regarde notre langue, il verra au plus profond de notre cœur quelle est notre attitude, s'il y a de la foi, s'il y a l'amour, s'il y a la paix, si nous pouvons communiquer quelques paroles de grâce, quelques paroles d'encouragement. Si ce n'est pas le cas, bien notre langue fera un effet destructeur, donc ce sera terrible. Je voulais terminer avec un dernier point qui est maintenant, que faire quand Dieu ne guérit pas? Parce que quelquefois nous prions, on a prié pour une guérison et la guérison n'est pas venue. Et on a prié à nouveau, on a persévéré et il n'y a toujours pas eu de guérison. Alors il y a un verset qui dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il y a quelques années, c'était en 2008, Laurence, mon épouse, est tombée malade. Elle a eu plusieurs maladies qui se sont greffées, qui étaient invalidantes et qui faisaient une œuvre de destruction. Et ça a duré plusieurs mois sans que ça puisse évoluer favorablement. Et à chaque fois, on voyait les médecins, mais malgré la morphine, l'opium, ça calmait les douleurs, mais il n'y avait pas de guérison. Alors on a prié, on a fait l'onction d'huile, on a prié, on a fait tout ce que l'on pouvait et il n'y avait pas de guérison. Et c'était assez lourd à porter parce que même moralement, ça devenait pesant. Il y a la maladie physique qui est déjà pénible à supporter. Et puis quand ça dure et qu'il n'y a pas de guérison, il y a en plus le découragement, il y a une forme de lassitude, d'abattement, de fatigue qui se greffe et ça peut devenir très très pesant. Et c'est pourquoi, au bout d'un certain temps, au bout de 2 ans de souffrance, le Seigneur a mis sur notre cœur de louer Dieu, de lui rendre grâce pour la guérison. Au début, on n'a pas compris, on pensait que Dieu allait la guérir tout de suite. Mais ce n'était pas encore le plan de Dieu. Alors on a commencé à rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et ça a duré jusqu'à 1 an. Et au bout d'un an, alors qu'on ne s'y attendait pas, enfin on s'y attendait tous les jours, mais en même temps c'était tellement long, on ne savait pas comment ça allait se faire, eh bien Dieu est intervenu lui-même et la guérison s'est opérée. Mais nous avons appris à rendre grâce dans les circonstances difficiles. Alors je le dis comme un témoignage, je ne le dis pas comme quelque chose qui est comme une doctrine, mais c'est une expérience personnelle. Je ne dis pas que ce sera la même expérience pour vous parce que chacun est différent et Dieu agit de manière différente suivant les personnes. Mais je vous donne une expérience. Voilà comment Dieu nous a aidés à traverser cette épreuve longue, difficile. Rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça peut être long, ça peut être difficile. Je pense à un autre verset qui peut nous éclairer, qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans Daniel 3:17. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sont contraints de se prosterner devant la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a fait ériger pour qu'on l'adore. Il fallait adorer la statue. Évidemment, les croyants ne peuvent pas adorer d'autres dieux que Dieu. Et ils ont refusé, même s'ils étaient menacés d'être jetés dans la fournaise ardente, ils ont refusé de se prosterner devant la statue. Problème. Ils sont convoqués devant le roi. Et le roi leur donne l'ordre, maintenant, c'est votre dernière chance, prosternez-vous devant la statue. Et ils répondent au verset 17, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Qu'est-ce qu'ils expriment ici? Ils disent au roi, voilà, nous savons que Dieu peut. Il peut nous délivrer. Ils ne savent pas encore qu'est-ce que Dieu va faire exactement. Mais ils ont la foi pour croire que Dieu peut le faire de toute manière. Il en a la puissance, il en a le pouvoir. Mais ils disent au verset suivant, verset 18, « Sinon, ça veut dire, s'il ne le fait pas, parce qu'ils ne connaissaient pas le plan de Dieu pour eux, eh bien, de toute manière, nous ne servirons pas tes idoles. » Voilà comment nous pouvons aussi aborder la problématique quand Dieu semble qu'il tarde à guérir, eh bien, nous savons qu'il peut le faire, nous savons qu'il en a le pouvoir, eh bien, s'il ne le fait pas pour l'instant, eh bien, en tout cas, nous continuons à croire qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est vainqueur sur toute forme d'opposition. Et puis, vous avez un autre exemple dans les Actes des Apôtres, avec Jacques et Pierre, qui ont été arrêtés dans la même période. Le premier, donc c'est Hérode qui les a arrêtés parce qu'il ne voulait pas que l'évangile progresse. Jacques, c'était le responsable de l'église de Jérusalem. Il a été arrêté, il a été exécuté. Il est mort. Et puis Pierre a été arrêté dans la foulée. Le roi Hérode voulait l'exécuter, mais dans la nuit qui précédait sa comparution, il a été libéré par un ange et il est sorti vivant. Maintenant, est-ce que Jacques avait moins de foi que Pierre? Je ne pense pas. Mais pour Jacques, son parcours s'est terminé de cette manière. Comment on peut l'expliquer? Moi, je ne peux pas l'expliquer. Je peux juste constater comment ça s'est terminé pour Jacques. Mais Jacques, c'était un croyant comme Pierre. On ne peut pas dire que Dieu a fait une préférence pour l'un ou pour l'autre. C'est que pour l'un, sa course était terminée et que l'autre, il avait encore des choses à apporter. Donc, peut-être il y a des choses qui nous échappent sur cette terre. Nous ne les comprenons pas, mais nous devons accepter qu'un jour ou l'autre, nous partirons d'une manière ou d'une autre et qu'ainsi, eh bien, nous achèverons notre course. Et puis, dernière chose peut-être qu'on peut mentionner, c'est si la guérison tarde, eh bien, cherchons qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre aussi pendant ce temps. Parce que c'est souvent pendant l'épreuve ou la maladie ou les grandes difficultés qui s'amoncellent que notre cœur est plus réceptif aux choses spirituelles. Nous prions davantage, nous cherchons Dieu davantage, nous nous attendons à Dieu davantage, nous sommes plus réceptifs spirituellement quand on vit des difficultés. Alors cherchons qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre. Et rappelons-nous, Paul aux Romains 8, verset 28, dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et donc, qu'est-ce que peut nous enseigner cette maladie? Qu'est-ce que peut nous enseigner cette épreuve? Alors, ça peut nous permettre de progresser, ça peut aussi nous humilier. David dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. » Vous avez certainement entendu parler de ce témoignage de cet homme qui est né sans bras et sans jambes, qui s'appelle Nick Vujicic. Il est né dans une famille chrétienne, sans bras, sans jambes. Et bien sûr, ça a été une épreuve très importante, déjà pour la famille, ensuite pour lui-même quand il a grandi. Mais il a donné son cœur au Seigneur. Et d'une manière miraculeuse, Dieu l'a utilisé pour prêcher l'Évangile. Et aujourd'hui, cet homme sans bras, sans jambes, il fait des conférences dans le monde entier pour parler de l'espérance qu'il y a en Christ, pour encourager. Et il témoignait ceci, il disait, bien sûr, il croit que Dieu peut tout faire. Et lui-même, il a réfléchi longuement sur la raison pour laquelle il est né sans bras et sans jambes. Et en réalité, il a compris que, à travers un verset de la parole, qui dit, je crois que c'était pour un aveugle, il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et lui, il a saisi cette parole en réalisant que cette situation qu'il vivait, qui était vraiment difficile, incompréhensible, eh bien, servirait pour la gloire de Dieu. Il l'a saisi comme une parole de Dieu pour sa vie, et c'est ce qui s'est accompli par la suite. Et il témoigne dans un de ses livres que, à la maison, dans son placard, il garde toujours une paire de chaussures au cas où Dieu lui donnerait des jambes. Donc, il garde quand même cette espérance et cette foi que Dieu peut tout faire. Mais en même temps, eh bien, cette maladie ou cette difficulté physique qu'il a, eh bien, elle sert pour la gloire de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on voit vraiment qu'on est encouragé à s'attendre à Dieu et que les guérisons que Jésus a commencées, eh bien, il veut continuer à les faire. Nous croyons que Jésus n'a pas changé. Peut-être quelqu'un est venu malade, peut-être quelqu'un est venu fatigué ou chargé, mais nous voulons aussi nous attendre à Dieu. Ce n'est pas un homme qui guérit, mais c'est Dieu. C'est pourquoi il est le Tout-Puissant. C'est pourquoi Pierre disait, ce n'est pas nous, mais c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, qui a fait ces choses-là. Et ce matin, nous voulons dire, toute la gloire revient à Jésus.